Maintenant, supposons, nous essayons de gérer cela, nous obtenons un peu de temps plus tard, en lui faisant confiance pour le diriger, c'est là que la plupart des gens trébuchent. Je ne suis pas sûr de pouvoir lui faire confiance pour le diriger. Eh bien, si tu es vraiment intelligent, tu peux simplement prendre un risque, tente ta chance. Qu'est-ce que tu as peur? Réfléchis à ta capacité à le gérer ou à celle d'Adam et à le gérer et réalise que les quelques bonnes choses qui sont arrivées dans ta vie, c'est quand tu l'as laissé taper sur les touches, sur le clavier. Mais tu ne le fais pas assez régulièrement, tu laisses l'autre le faire suffisamment pour qu'il t'efface toujours le bien qui a été fait. Tu alternes donc entre les deux. Maintenant, je dis des choses dont je parle à propos de cet Adam. Je veux corriger quelque chose ici parce que je dois même faire attention à ma confession. Tu dois faire très attention à ta confession. Tu es né en Adam, dans le naturel. Mais Jésus a dit que pour marcher avec lui, tu devais naître de nouveau parce que tu as besoin d'une autre nature. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Nous devons obtenir une autre nature parce que cette ancienne, cette première nature dans laquelle nous sommes nés est née dans le péché et ne peut jamais plaire à Dieu. Elle ne peut même pas comprendre les choses de Dieu. Tu dois donc avoir une nouvelle nature qui non seulement peut obéir à Dieu, mais aussi comprendre les choses de Dieu. Maintenant, il n'est pas important de savoir si c'est du bien ou du mal. Cette vieille nature, tout ce qu'elle fait est contraire à ce que Dieu veut faire. Paul, dans Romains 7, répète « Tout ce que Dieu veut faire, cette nature la fera à l'opposé, soit en mal, soit en bien, mais ce sera à l'opposé de ce que Dieu veut faire. La nature de Christ ne fait que ce que Dieu veut qu'elle fasse, elle ne fera jamais rien de contraire à ce que Dieu veut. J'ai donc une crise d'identité quand je suis venu à Dieu. Je n'en avais pas avant d'être sauvé, je savais qui j'étais. » Je savais ce que je ferais s'il me regardait comme ça, ou quoi que ce soit, ou s'il me bousculait, ou quelque chose comme ça. Je savais ce que je ferais. Je me connaissais. Alors, ne fais pas ça parce que je sais ce que je ferais si tu faisais ça. Je me connaissais. J'ai été honnête avec moi, même si je n'aimais pas beaucoup ce que j'ai été parfois. J'ai été honnête avec moi. Mais lorsque je suis venu au Christ et que je suis né dans la famille de Dieu, que cette naissance m'a donné une nouvelle nature, cette nature ressemble à celle de mon grand frère Jésus. Et l'autre nature qui était comme mon premier frère Adam qui a péché, le Seigneur a dit, « Je veux que tu tues celle-là. Je l'ai condamnée. Si tu veux voir cela comme deux maisons, cette maison, le Père a dit est condamnée. À partir d'aujourd'hui, quitte-la. Je t'ai donné une nouvelle maison. Va dans celle-ci où... » Dans l'arbre, c'est-à-dire la nouvelle nature. Installe-toi dans celle-ci, vis ici. Ne retourne jamais dans l'autre maison, car elle est condamnée. Et si tu vis dans cette maison, tu es condamné parce que la maison est condamnée. Ne sois pas là lorsque la boule de démolition frappera. À l'heure actuelle, oui, elle est encore debout, mais elle est déjà condamnée à la destruction. Elle a été condamnée. C'est comme une maison sur le point de s'écrouler. Elle a été condamnée. Et la loi dit que tu ne peux plus y vivre une fois qu'elle est condamnée parce qu'elle n'est pas pure. Elle n'est pas sûre parce qu'un jour, elle va s'écrouler. Eh bien, là-dedans, Tout cela va être détruit lorsque Jésus reviendra. Mais nous ne savons pas quand cela va se produire. Cela peut arriver en plein milieu de cette session. Il y a la destruction qui vient sur cette maison, elle va tomber. La colère de Dieu s'abat sur les fils de la désobéissance. Les fils de la désobéissance sont ceux qui marchent dans la chair et non selon l'esprit. Ne te laisse pas surprendre à marcher là-bas quand ça frappe. Tu ne perdras peut-être pas ton salut, mais il y aura beaucoup de feu pour l'obtenir. Tu seras peut-être sauvé comme par le feu, mais tu vas passer par des choses très chaudes si tu te trouves là-bas quand il reviendra. Il a donc dit que tu avais le temps de déménager complètement et que la meilleure chose à faire était de le laisser démolir ta maison pour que tu ne sois pas tenté d'y revenir. C'est pourquoi je veux mettre la hache à la racine, parce que tu ne peux pas retourner manger sur l'arbre s'il est mort. Ne te contente pas d'essayer de rester à l'écart parce que tu as une belle maison bien équipée là-bas et que chaque fois qu'il fait un peu chaud ici, tu peux aller t'y installer et te rafraîchir un peu. Idem pour les deux royaumes, royaume des ténèbres et royaume de la lumière. Nous avons deux passeports. Tu es censé avoir déchiré l'autre quand tu es entré dans ce royaume pour ne pas pouvoir passer la frontière. Mais nous gardons les deux passeports à jour. De cette façon, nous faisons des allers-retours. Ce n'est pas très bien. Jésus a dit d'être l'un ou l'autre, chaud ou froid. Soit tu es froid, soit tu es chaud. En lui, tu es chaud. L'entre-deux n'existe pas. Les allers-retours, le mélange du chaud et du froid te rend tiède. C'est pourquoi le Seigneur a mis en garde l'Église dans l'Apocalypse. Il a dit, « Je te vomirai. » C'était l'Église de Laodicée. « Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. » Je suis allé à Laodicée, dans l'actuelle Turquie. Tu es sur le flanc de la montagne. Et c'était l'un des centres financiers du monde à l'époque où Jésus a prononcé ses paroles par l'intermédiaire de Jean. Quand vous regardez sur le côté de cette montagne, et je suis allé dans l'autre ville où il y avait des ruines, et c'est la forme d'une ville, mais les murs ont été démolis, mais vous voyez des fondations et vous pouvez voir où se trouvait chaque maison. À la Odyssée, tu ne pouvais pas savoir où se trouvait une maison parce qu'on aurait dit que tout le flanc de la montagne avait été balayé par le vent. Il y avait des rochers ici, des rochers ici, des rochers là. Rien dans une forme ou un autre qui puisse montrer où se trouvaient les fondations ou quoi que ce soit d'autre. On aurait dit qu'elle avait été projetée sur le flanc de la montagne. Le Seigneur a dit, si tu ne te repens pas, je te vomirai de ma bouche. J'ai été stupéfait de voir cela. On aurait dit qu'elle avait été projetée sur le flanc de la montagne. Nous devons donc comprendre la gravité de la situation. Nous ne pouvons pas jouer à des jeux avec cette question. Nous devons déménager. C'est la vie ou la mort. C'est aussi simple que ça. Maintenant, une fois que tu as commencé, supposons que nous dépassons la question de la seigneurie et que nous décidons simplement qu'il sera seigneur. Et c'est juste une décision. Et je vais l'écouter. Je veux le reconnaître dans toutes mes voies. Et il va diriger mes pas. Maintenant, tu dois réaliser que ces pensées qui te viennent à la tête et que tu veux contrôler vont provenir d'une ou deux sources, mais en un sens, de trois sources, d'accord. Indirectement, de la troisième, mais de vraiment l'une des deux sources. Ces pensées viennent de ta pensée, soit le Christ était sur le clavier, il les a mises dans ta tête. Dans ce cas, tu le testes, tu réalises que c'était le Seigneur, tu libères la pensée, tu fais ce qu'il dit. Le corps obéira. C'est aussi simple que ça, d'accord? Ou bien, il s'agissait de la ville, de la vieille nature d'Adam qui est programmée dans la tête pour satisfaire sa propre convoitise et qui est motivée par elle-même. C'est ce qui a été programmé dans nos cerveaux tout au long de notre vie alors que nous n'avions qu'une seule nature. Notre système d'éducation, tout ce qui se trouve dans la société a programmé notre pensée pour que ce soit toi qui dirige. Voilà ce qu'est l'éducation. Plus on est éduqué, plus on est capable de faire fonctionner l'ordinateur. Tu comprends ce que je veux dire? Qui est notre coordinateur européen titulaire d'un doctorat? Cela signifie qu'il a reçu un peu plus de formation que certains d'entre nous pour diriger son propre affaire. Mais il ne dirige pas son propre affaire avec son doctorat. Il devait déménager de cette maison, d'accord? Il a dû quitter cette maison. Cela ne veut pas dire que l'éducation n'a pas une certaine valeur, mais la partie de l'éducation qui t'apprend à t'appuyer sur elle pour t'orienter est une erreur. La raison pour laquelle ils t'enseignent cela, c'est qu'ils ont aussi une nature d'Adam et qu'il n'y a pas d'autre façon de faire fonctionner l'équipement. Il n'y a qu'un seul clavier en eux et c'est la seule façon de fonctionner. On dirait que c'est la vérité, mais ce n'est pas le cas, c'est seulement vrai. La vérité est qu'il existe une autre nature que l'on peut recevoir. Elle dispose d'un clavier relié à l'ordinateur. Il y a une personne de cette nature qui fera fonctionner l'ordinateur bien mieux que toi. Tu ne pourras jamais avoir assez d'éducation pour le faire fonctionner parce que celui que nous mettons sur ce clavier, sa sagesse est plus grande que tous nos diplômes de doctorat, comme les cieux sont au-dessus de la terre. Tu peux prendre toutes les personnes les plus intelligentes du monde entier, les mettre ensemble et leurs bêtises comparées à l'opérateur informatique auquel nous avons accès. Est-ce qu'il est logique que même si nous sommes bien formés pour le faire fonctionner ici, il est ridicule de s'en tenir à quelque chose d'aussi archaïque alors que nous disposons d'une technologie de pointe? Amen, c'est ridicule. Il y a deux façons de faire fonctionner l'ordinateur, mais l'une d'elles est pathétique. L'une est à la pointe de la technologie. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant à ce sujet pour toi. Permettez-moi de partager ceci avec vous tous. Soit le Christ est sur le clavier, soit nous sommes soumis à Adam et par ce qui a été programmé dans notre pensée, la vieille nature charnelle restera là et fonctionnera. Elle est en mode automatique. Elle fait apparaître des choses et tu veux faire quelque chose. Cela active le cerveau et tout ce que tu as programmé dans ta pensée, tu le fais apparaître à l'écran et tu choisis « Ouais, c'est la meilleure chose à laquelle je peux penser. » Oui, et tu laisses tomber. Ou bien, à partir de cet endroit, si nous avons beaucoup de péchés dans notre vie, Satan peut entrer et donner des directives où nous pouvons complètement céder. Et en fait, les gens qui sont possédés par Satan et qui sont totalement hors de contrôle, ils lui remettent le clavier pour qu'il s'en serve. Tout comme nous l'avons fait pour le Christ. C'est un cas extrême. Les chrétiens ne vont pas faire cela, mais ils vont parfois l'écouter au lieu de cela. Juste pour un petit moment, vous savez, ils le laisseront tapoter un peu tant qu'il tapote de bonnes choses. Ils ne se rendent même pas compte que c'est Satan. Il imitera même la manière dont Christ tape sur le clavier. Ici, il imitera le Seigneur. Laisse-moi te montrer comment le frapper. Et il le fera. Et tu n'as pas changé la commande. Tu es toujours là-bas, c'est-à-dire dans la chair. Le Christ ne vient pas là pour taper sur le clavier. Il en a un ici. Tu dois changer le contrôle là-bas. Tu dois lui remettre l'autorité qui se trouve là-bas dans la nature de Christ. Soumets-toi à lui, quel que soit celui à qui tu cèdes. Il a donc l'une de ces trois sources. Soit Satan joue sur le clavier, soit Adam et la vieille nature charnelle jouent sur le clavier, soit Christ est sur le clavier. C'est de là que viennent les pensées de l'un de ces trois endroits. Alors, comment allons-nous faire fonctionner ce truc? Comment puis-je savoir lequel de ces trois-là il s'agit? Oui, surtout si Satan imite le Christ, d'accord? Est-ce une question légitime? Oui. D'accord, je vais te donner une réponse assez simpliste. Ce n'est pas toujours aussi simple si tu le parcours, mais tu commences par ce que dit la parole de Dieu. Ensuite, je l'accepte comme étant la vérité. Traite ensuite des raisons pour lesquelles je ne peux pas y croire ou l'exécuter ou quoi que ce soit d'autre, mais ne modifie pas la parole de Dieu en fonction de ton incrédulité. C'est ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, regardons l'accès de Satan au clavier qui pourrait mettre des pensées dans ma pensée. Un simple passage des Écritures. Je vais juste citer quelque chose que vous connaissez tous, mais je vous le rappelle. Soumets-toi au Seigneur, résistez au diable et il s'éloignera de vous. Je suis sûr que tout le monde connaît ce passage. Soumettez-vous au Seigneur, résistez au diable et il s'éloignera de vous. Je vois des chrétiens partout dans le monde qui essaient de résister au diable et il ne va nulle part. Ils disent, j'ai fait ce que la Bible a dit, je résiste au diable, mais il ne me laisse pas tranquille et il continue à venir. Mais ils ont oublié la première partie du verset. Tout d'abord, soumets-toi au Seigneur. Ensuite, tu résistes au diable et il s'éloignera de toi. Ils n'ont pas donc obéi à la condition pour qu'il s'enfuit. S'il ne fuit pas, c'est la confirmation que tu n'es pas soumise au Seigneur. Si tu veux savoir à quelle vitesse et avec quelle force il courra, quand tu lui résisteras, c'est juste la profondeur de la constance de ta soumission à Dieu. Tout ce qui sont ici, je le sais, sont soumis à Dieu. Sinon, vous ne serez pas ici. Tout comme tous les gens ici présents, je sais que tu aimes Dieu, sinon tu ne seras pas ici. Mais l'aimes-tu à 100%? Ou bien dans le Proverbe 3, versets 5 et 6, lui fais-tu confiance de tout ton cœur? Est-ce toujours à 100%? Nous devons l'aimer de tout notre cœur pour en bénéficier pleinement. Nous devons lui faire confiance de tout notre cœur ou nous soumettre à lui de tout notre cœur pour que le diable ait le pouvoir de s'enfuir, comme le dit la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas à 80%, tu obtiendras un effet de 80%. Si tu le fais à 20%, tu obtiendras 20% d'effet. C'est pourquoi dans le corps de Christ, tu vois des gens faire la même chose, mais certains le font plus efficacement que d'autres. Tu as simplement un pourcentage plus élevé d'obéissance et à l'un de ces deux commandements. C'est aussi simple que cela. Cela ne signifie pas qu'ils sont meilleurs que toi ou que Dieu les aime davantage. Cela signifie qu'ils acceptent la responsabilité de ce qu'ils font de mal, qu'ils arrêtent de se trouver des excuses, qu'ils ont cherché et cherché les raisons plus longtemps que toi et qu'ils ont fait face à plus de choses que toi. Ils ont peut-être eu plus de temps. S'ils n'ont pas eu plus de temps, cela devrait vraiment te faire quelque chose. Tu as été paresseux. Ils le font depuis 10 ans. Et ils sont arrivés en 5 ans. Tu n'as commencé que la semaine dernière, c'est logique. Mais cela fait 10 ans que tu le fais et ils ont commencé la semaine dernière et ils te devancent. Cela devrait vraiment t'exciter. Au lieu de les condamner et de les rabaisser, cherche à savoir ce que tu fais de travers. Si j'obéis à ce seul petit commandement, que je me soumets à Dieu, que je résiste au diable et qu'il s'enfuit de moi. Si j'ai fait cela et qu'il m'a fui, comment peut-il donner des coups de poing sur mon clavier? Il ne peut pas. Il n'a pas sa place en moi. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas sa place en moi. S'il n'a pas sa place en moi, il ne peut pas toucher à mon clavier. J'ai éliminé celui-là. Il ne m'en reste plus que deux. J'ai déjà parlé à l'autre. Ce n'était pas une suggestion, c'est une ordre. C'est un ordre de Dieu. Mortifiez donc les membres de votre chair. Cela signifie tuer. Mets la hache à la racine de l'arbre, c'est l'orgueil. Quand tu t'es vraiment humilié, encore une fois, c'est exactement la même chose que de te soumettre à Dieu de tout ton cœur. Quand tu t'es vraiment humilié, que tu as totalement lâché tout contrôle, que tu t'appuies sur Dieu, que tu fais cela à 100%, tu as aussi mortifié la chair. Tu l'as fait, il est mort. Un mort ne peut faire fonctionner le clavier. S'il est faible et mal en point, il ne peut pas faire fonctionner un bon clavier, mais il peut donner des coups de poing. S'il est fort, en bonne santé, il peut rester assis et travailler 12 à 16 heures par jour. Donc cela dépend du niveau auquel tu obtiens cette chair mortifiée. Ne passe pas toute ta vie à essayer de cueillir les fruits de cet arbre. C'est une erreur typique de repentance que font la plupart des chrétiens. Ils s'en prennent à cet arbre qui porte toutes sortes de fruits issus de la racine de l'orgue. Et chaque fois qu'une nouvelle récolte de fruits sort, « Oh non, comment cela a-t-il pu se passer? Je ne m'étais pas rendu compte que cette racine était encore en moi. Je pensais même m'en être débarrassé. » Ils se précipitent et cueillent tout. Je pensais l'avoir. J'espère que personne ne l'a vu avant que je ne l'enlève. Et juste au moment le plus important, inopportun, en voilà un qui surgit à nouveau. Juste au moment où le pasteur est passé, l'un d'eux, tes fruits, donc est sorti. C'était le printemps, je n'avais pas réalisé que c'était le printemps. Tu t'affoles, tu enlèves tout, tu prends des ciseilles et tu coupes les branches. Ça devrait suffire. Tu vois c'est ce qu'on appelle l'élagage. La Bible, c'est ce que tu fais si tu veux que l'arbre produise plus de fruits. Peut-être qu'il reste éteint un peu plus longtemps, mais la saison suivante, bam, le voilà qui arrive, plus de fruits que tu n'en avais auparavant. Oh, mais qu'est-ce que c'est, cette histoire? Je suis en train de rétrograder. Pourtant, tu pensais que tu te repentais tout le temps. Puis le diable dit, tu vois, tu ne t'es pas repenti. Quelqu'un a déjà compris ça? Tu ne t'es pas vraiment repenti. Si tu t'étais vraiment repenti, il n'y aurait plus rien là-bas, là-dedans. Et tu crois à ce mensonge qui pourrait être vrai, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas la vérité. Il est vrai que tu ne t'es pas repenti du problème de fond, mais ce n'est pas vrai que tu ne t'es pas repenti de ce fruit. Tu aurais pu te repentir de ce fruit, mais cela ne tue pas l'arbre. Tu dois remonter jusqu'à la racine de l'arbre, abattre la hache, ce l'arbre, et la saison prochaine, il n'y aura pas de fruits sur cet arbre parce qu'il est desséché. Il n'y a plus de sève qui monte à travers lui. C'est une erreur courante. La plupart des chrétiens dans le monde ne se repentent qu'au niveau de fruits ou peut-être de la branche, mais pas au niveau de la racine. Tu dois donc reconnaître que cela vaut la peine de faire un effort supplémentaire pour remonter jusqu'à la racine. Si tu n'es pas sûr de chaque étape, c'est bien de connaître toutes les étapes de la croissance à partir de la graine. Ainsi, si tu l'as raté au niveau de la semence, vous l'attrapez au niveau de la germination. Et à chaque étape, tu peux l'attraper. Tout a une origine. Tu as des organes. Elles ne flottent pas. Tu as des oranges, pardon. Elles ne flottent pas simplement dans l'air. Elles sont accrochées à quelque chose. Un petit tige, des brindilles accrochées à un rameau. Un rameau à une branche à un tronc. Et tu peux le suivre jusqu'en bas. Tu es relié à quelque chose. À chaque étape, il y a quelque chose d'autre. Eh bien, à chaque endroit, pour passer à l'étape suivante, il doit y avoir un changement. Quelque chose d'autre doit se produire. Si tu pouvais identifier ce point et voir ce changement qui s'est produit, tu aurais pu l'attraper tout de suite. Au moins, tu aurais pu l'arrêter avant qu'il ne sorte et devienne un arbre que personne d'autre pourrait manger, ce qui est mauvais. Tu sais ce que je dis? Avant qu'il ne sorte vraiment, au moins attrape-le au stade de la floraison parce que c'est le fruit proprement dit qui va apporter des dégâts, qui va toucher d'autres personnes. Maintenant, les gens qui sont plus mûrs et plus perspicaces, ils peuvent dire quand tu as juste une semence, ou ils peuvent dire quand tu es sur le point de fleurir, ou ils peuvent dire quand tu as déjà fleuri et que tu t'apprêtes à produire des fruits. Ils peuvent s'en rendre compte, tu devrais pouvoir le faire toi-même, mais si tu ne peux pas en attendant, coupe au moins l'arbre, la racine pivotante et l'orgueil. Tu n'as pas besoin de comprendre comment tout cela est arrivé là. Il te suffit de t'humilier, de le remettre à Dieu et de réaliser que pour pécher, quel qu'il soit, tu dois assumer la seigneurie. Pour que cet arbre puisse pousser, il faut que tu fasses passer cette seigneurie, un acte de ta volonté à Adam. Alors, pour se repentir, il suffit de revenir au Christ. Humilie-toi humblement, remets-le au Christ. Lorsque tu fais cela, tu coupes les mensonges, tu poses la hache sur la racine de cet arbre et les fruits commencent à mourir. Et il continuera à mourir et à tomber tant que tu le maintiendras dans cette position. Si tu la vois repousser, c'est ta preuve. Ou si tu la sens pousser, c'est la preuve que consciemment ou inconsciemment, tu l'as réenclenché. Je veux dire que si tu reconnais cela, ne te donne pas du coup de pied pendant 3 jours et n'écoute pas le diable, mais humilie-toi immédiatement et remets la commande en place. Une fois que tu as récupéré la commande, parle à celui, c'est-à-dire à Jésus, qui est sur le clavier ici, et demande-lui d'afficher tout sur ton écran les raisons pour lesquelles tu as échangé et la ruse que le diable a utilisée. Mais ne laisse pas la commande avec le diable sur le clavier et ne pose pas la question qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il se fera passer pour Dieu, tapera sur ton clavier et te rappellera ce qui n'a pas fonctionné et tu passeras les 50 prochaines années à travailler dessus sans jamais y remédier. C'est l'un des moyens qui semble juste alors que tu es dans le mauvais arbre de demander à Dieu ce qui ne va pas. Et il n'est pas sur le clavier. L'ennemi de ton âme se mettra sur ce clavier et te mentira, te donnera des moyens qui semblent justes, te donnera un mauvais diagnostic de ce qu'est le problème. Et peu importe à quel point tu traites ce mauvais diagnostic, tu ne seras jamais guéri. C'est donc important de voir que même ceux que je forme et qui se font prendre ont toujours tendance à faire ce qu'il faut, à entrer dans le mauvais arbre et à commencer à poser des questions pour essayer de s'en sortir. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de s'humilier, de reconnaître, Seigneur, je suis désolé, pardonne-moi d'avoir repris la seigneurie ou d'avoir rendu la seigneurie à Adam. Tu es mon Seigneur, je ne l'ai pas fait consciemment. Seigneur, si je l'ai fait, pardonne-moi, c'était stupide. Tu es mon Seigneur, je veux que tu prennes la décision. C'est tout ce qu'il faut, une simple décision de revenir. Donc, si nous faisons cela, nous nous sommes débarrassés de ces 2 autres raisons et il n'en reste plus qu'une. Maintenant, c'est le problème commun que j'ai dit qu'il faut vraiment faire attention à notre confession. Qui es-tu? Es-tu? Suis-je Joseph Adam ou Joseph Christ? Dieu a dit, je ne veux pas que tu sois les deux à la fois. Choisis celui que tu vas être. Qui es-tu? Pendant des années, j'ai été Joseph Adam. Je n'avais pas d'autre choix. Tu sais ce que c'est dans cette situation que j'ai vécue? Mais maintenant, j'ai choisi d'être en Christ. Mais lorsqu'une pensée me vient à la tête et me dit de faire quelque chose que je sais que le Christ n'aurait pas voulu faire, que dis-je à partir de ma volonté? Mais je veux le faire. Dieu, pourquoi ne puis-je pas faire cela? Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Ou est-ce que c'est ce que Adam veut faire? C'est ce qu'Adam veut faire. Que veut faire le Christ? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Alors lequel es-tu? Lequel vas-tu t'identifier? Comme étant toi, ce que le Christ veut faire ou ce que Adam veut faire? Lequel est le tien? Quel est le vrai toi? Tu serais étonné de voir les chrétiens qui pensent encore que le vrai moi, pour eux, c'est Adam. C'était toi, ce corps est mort et ton esprit est passé dans ce nouveau corps qui est le Christ, un corps spirituel. Tu peux choisir celui qui te conviendra le mieux. Et cela affecte la façon dont tu réagis. Si j'identifie le fait de ne pas vouloir faire ça, je ne veux pas faire ça parce que ça pourrait faire mal. Je ne veux pas le faire parce que cela pourrait me coûter cher. Je ne veux pas le faire parce que cela pourrait me mettre dans l'embarras. Toutes ces choses, ces prétextes, ces excuses que nous essayons de toujours de trouver pour expliquer pourquoi nous ne voulons pas faire ce que le Christ a mis sur l'écran. Nous continuons à le prendre comme si c'était moi. Et si nous réalisons que lorsqu'il est apparu à l'écran et que cette nature a commencé à agir parce que nous ne l'avions pas encore vraiment tué, si tu veux bien commencer par, voilà, donc qui hurle à nouveau, qui fait des siennes, eh bien, pas de chance, mon vieux, je vais juste le libérer. Mais voilà ce que je vais faire. Tu peux crier si tu veux, je ne vais pas t'épargner les pleurs. Qu'est-ce que ça peut me faire que tu cries et que tu pleures? Ce n'est pas moi. Je veux faire la volonté de mon père. C'est ce qui apparaît à l'écran. J'aime faire la volonté de mon père. C'est ce qui apparaît à l'écran. Je ne veux pas faire ce que Adam veut faire pour qu'il puisse pleurer, bouder, piquer une crise et faire ce qu'il veut. Il est censé être mort de toute façon. Le fait même que je le laisse en vie est la raison pour laquelle je ne devrais pas me plaindre parce qu'il va brailler et me donner du fil à retordre. Si je ne veux pas l'écouter, je devrais le tuer. Mais tant que je vivrai là-bas dans Adam, je ne veux pas faire exploser la maison. Mais si je déménage et que je le considère comme mort, alors je ne l'écouterai pas. Je n'écouterai pas ses cris de mort. Ce n'est pas grave, meurs. Je m'en fiche. Je ne vis plus ici. Démolis-le. Démolis cette chose aujourd'hui. Je ne vis plus ici. J'ai une meilleure maison. Tu serais étonné de voir le progrès que tu ferais rien qu'en changeant ton attitude par rapport à qui tu es. La confession, ce que tu confesses avec ta bouche et ce que tu crois dans ton cœur. Crois-tu vraiment que tu es toujours Adam? Si c'est le cas, tu ne crois pas vraiment que tu es né de nouveau. Réfléchis, c'est bien. Tu doutes que tu sois né dans la famille de Dieu et que tu aies vraiment une nature de Christ qui va vivre pour l'éternité avec le Seigneur. Tu hésites. Vérifie ta foi. Examine ta foi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta foi? Tu relâches ta foi dans des mensonges et non dans la vérité. Alors retravaille-la, redresse-la, aligne-la et mets-la où elle est censée aller en la libérant dans la vérité. Reconnais que ce que j'ai cru est un mensonge, ce que tu as cru donc est un mensonge. Dès que tu es convaincu qu'il s'agit d'un mensonge, tu arrêtes d'y croire. C'est pourquoi j'essaie d'éliminer les preuves et d'en obtenir suffisamment pour te convaincre que ce que tu as cru est un mensonge afin que tu arrêtes d'y croire et que tu commences à croire à la vérité. Alors les choses deviendront plus faciles. Tu ne seras pas comme un singe qui saute d'arbre en arbre tout le temps. Nous nous installons, nous coupons celui-là. Celui-ci est largement capable de fournir tous les fruits dont j'ai besoin pour vivre le reste de ma vie. Nous nous disons, oh, mais il y a de bonnes choses ici aussi. Cela vient d'un bel arbre. Il a fallu beaucoup d'années pour que cette chose pousse. En fait, tu ferais mieux d'en couper un aussi haut que ces grands. C'est quoi, ou pain ici? Wow, il a fallu des années pour faire pousser ça. C'est un bel arbre, il est beau. Tu te souviens de la Bible, le fruit est beau. Nous pensons donc à toutes ces choses, bonnes choses là-bas. Nous ne croyons pas vraiment qu'il y ait une chose aussi bonne ou meilleure dans cet arbre. Il n'y a rien dans cet arbre, c'est-à-dire dans la chair, qui puisse être comparable à ce qui se trouve dans l'arbre de vie. Le problème, c'est que la plupart des gens est un séquoia géant dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont un petit plant chétif dans la nature du Christ qui ne porte même pas encore de fruits. Si tu coupes ceci, c'est-à-dire la nature d'Adam, et que tu mets toute l'énergie dans ça, dans la nature du Christ, cette petite pousse peut croître rapidement. C'est ce qui est étonnant dans le corps du Christ. Tu peux y trouver une graine en repos depuis 20 ans qui n'a pas dépassé 10 cm de haut. Mais si tu peux finalement couper tous les mensonges qui lui fait obstacle et prendre 99% de l'énergie qui était mise dans cette arbre, dans la vieille nature, la retourner et la mettre ici pour que toute la sève et tout l'eau aillent à celle-ci, c'est-à-dire cette arbre de la nouvelle nature, l'arbre croît. Et la première chose que tu sais, c'est qu'il a grandi et qu'il est plein de fruits. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la patience, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, tout d'un coup, ça commence à germer. L'arbre n'est pas en train de grogner ou de s'efforcer. Oh, voyons si je peux faire sortir un peu de fruits. Tu as déjà vu un arbre fruitier faire ça? Tu l'as vu au printemps gémir et se plaindre en essayant de faire sortir les fruits? Il est juste là, il en profite, il bat au vent, il loue Dieu, les fleurs sortent et les fruits sortent. Il ne s'efforce pas, il y a un temps et une saison. S'il reste dans le sol, il reçoit tous les nutriments, la pluie et tout ce qui les rend forts et en bonne santé au soleil. Ils reçoivent simplement toutes les choses que Dieu leur donne et en temps voulu, sans aucune contrainte, leurs fruits sortent en saison. Eh bien, c'est de la même façon que tu reçois toutes les choses que Dieu a pour toi. Le rayon du soleil qui sent parfois brûlant, la pluie qui fait parfois froid dans le dos, toutes les choses dont Dieu a besoin. Le vent qui souffle, le genre de choses qui t'oblige à mettre plus de racines pour être stable, te rend plus fort et plus profond. Toutes les choses dont Dieu a besoin pour devenir un arbre fort et sain, alors le fruit de l'esprit commencera à sortir et il n'y aura pas de lutte. C'est le signe que tu as un bel arbre de Christ en bonne santé lorsque tu as le fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. Pas les dents de l'esprit, il y a des dents. Cela n'a rien à voir avec ta maturité. Les fruits ont quelque chose à voir avec ta maturité. Tu n'as pas besoin d'être un arbre géant et adulte, un séquoia pour porter des fruits, mais cela prend un peu de temps. Mais même un petit arbre portera des fruits. Il n'en porte pas beaucoup, c'est tout. Mais ce qu'il y a est bon. Mais comme tu continues à travailler autour de lui, il porte un peu de fruits, tu apprécies les fruits. Puis, après avoir cueilli les fruits, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as taillé. Je n'ai jamais compris cela pendant longtemps. Je fais encore quelque chose de bien. Les fruits sortent et je rends gloire à Dieu. J'ai enfin quelque chose de bien. Et la chose suivante est arrivée, la tondeuse. Et je pensais que Dieu me punissait parce que j'avais fait quelque chose de bien. Non, il m'a aimé et apprécié le fruit que j'ai produit. Et parce qu'il l'a fait, il l'a apprécié, il m'a élagué pour que je produise plus de fruits la fois suivante. Tu dois comprendre un peu ce qu'est le jardinage, sinon tu vas résister à Dieu chaque fois qu'il essaiera de faire quelque chose. Tu vois, c'est le plus gros problème. Les gens ne comprennent pas ce qu'il faut pour être fort et en bonne santé en Christ, de sorte que chaque fois que notre jardinier essaie de faire quelque chose, nous sommes là à résister, à courir vers cette maison, la chair, pour nous éloigner de lui, c'est-à-dire de Dieu. C'est pourquoi tu dois la démolir pour ne plus pouvoir courir nulle part. Tu dois te tenir là et apprendre enfin à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Dieu préparait le grand Paul à devenir un apôtre et il devait apprendre à supporter certaines duretés comme un bon soldat parce qu'il allait être confronté à des choses difficiles dans son appel. Et Dieu a permis quelque chose dans sa sagesse qu'il aurait pu empêcher dans sa puissance. Il a permis à un messager de Satan de le secouer de peur qu'il ne soit exalté au-delà de toute mesure. Dieu déversait tellement de révélations en lui, tout comme je parlais de la connaissance, il recevait plus de connaissances qu'il n'avait le temps d'en pratiquer. Il n'avait pas encore produit assez de sagesse pour l'équilibrer. Ce qui s'est produit au cours des quelques 50 où il a exercé son ministère, la sagesse a rattrapé toute la révélation qu'il avait reçue au début. Mais comme il n'avait pas toute l'expérience nécessaire pour retenir cette connaissance et il ne pouvait pas se permettre de s'enfler, il lui a donné un messager de Satan pour l'équilibrer, pour le secouer. Si tu étudies la racine de ce mot en grec, tu verras qu'il s'agit en fait d'une lutte que nous menons lorsque nous sommes enfants et que nous voulons vraiment mettre quelqu'un en colère. Nous lui bloquons la tête, secouons la tête, pardon, et nous la frottons avec nos mains. Cela ne va pas te tuer, mais cela va faire couler les larmes de tes yeux. Tu te rends tellement furieux que tu auras envie de mordre un clou de 20 centimes en deux, tu sais. Et cela ne fait que t'irriter, cela ne va pas te tuer, c'est juste douloureux. C'est en gros ce qu'était ce messager qui a secoué. Secouer signifie qu'il lui a simplement frotté la tête, il ne l'a pas tué. Et tout ce qu'il faisait, c'était de crier, hurler, enlevez-le-moi, enlevez-le. Et le Seigneur continuait à dire à Paul, ma grâce est suffisante pour toi. Il n'a pas compris tout ce qu'il savait à ce sujet. Dieu ne lui a pas laissé beaucoup de choix, mais il n'a pas fui Dieu. Il n'a pas couru vers l'autre arbre. Il n'a pas quitté Dieu. Il a simplement supporté, même s'il ne la comprenait pas. Mais si tu lis la dernière partie du ministère de Paul, il ne s'est pas contenté de se frotter. D'avoir eu la tête frottée, il le lapidait. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà étudié ce qu'était la lapidation au Moyen-Orient à l'époque? Il ne se contentait contentaient pas de rebondir quelques pierres sur ta tête. Ils t'ont mis là et ils se sont mis autour et ils ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il y ait un monument. Tu es complètement enfoui, enseveli sous les pierres. C'est ce qu'ils ont fait à Paul. Ils ont tous continué à vaquer à leur occupation. Il n'est plus là. Paul sort de tout de sous le tas des pierres, retourne dans la ville et il vient de le lapider, prend ses disciples et poursuit son chemin. Maintenant, quand il traverse ce genre de choses plus tard, il dit « Je peux maintenant compter sur la joie. Quand je tombe dans des épreuves diverses, des tentations et tout, compter sur la joie. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Un peu de souffrance ne le dérangerait pas. Un peu de dureté en tant que bon soldat ne le dérangerait pas. Il l'a embrassé juste pour pouvoir participer à la communion de la souffrance de Christ. Il considérait tout ce qu'il avait accompli dans la nature, dans le naturel, comme du fumier. Comparé au privilège de cette relation, le type de relation dont nous parlons, tu vois, tu dois apprendre quelque part à faire confiance à Dieu. Ainsi, nous passons de la présence de Dieu à l'apprentissage de la confiance en lui, de la vie en lui et non à Adam. Maintenant, pendant que nous avions encore Adam, je terminerai par ceci, la différence entre avoir l'esprit en vous, c'est-à-dire en toi, et toi dans l'esprit. Quand j'étais tout Adam, ce ver, c'est moi. J'ai accepté Jésus et il a versé son esprit en moi. C'est de l'eau. Cela représente l'eau de l'esprit. Maintenant, j'espère et bien je ne suis pas tout à fait plein, mais j'espère que je suis plein de l'esprit, d'accord? C'est l'esprit qui est en moi et cet esprit est une puissance. Il m'a donné la puissance de mortifier et de tuer Adam. Amen. Il m'a donné le pouvoir d'assujettir mon corps et de le placer sous le contrôle de Jésus. Il m'a donné le pouvoir de le faire. Mais je suis assis ici dans un acte de ma volonté. Je peux soit libérer cette puissance, soit ne pas le faire. J'ai le choix. Pendant des années, j'avais encore là-dedans. Satan avait accès à moi parce que je gardais encore la dent en vie et qu'il y avait du péché dans ma vie. Mais j'avais aussi l'esprit de Dieu en moi et je voulais servir Dieu. Je me trouvais donc au point A et Dieu disait d'aller au point B parce que j'aimais Dieu et que je voulais faire ce qu'il disait. Et je croyais que rien ne pouvait m'arrêter tant que je restais concentré sur ce que Dieu me disait de faire. Mais comme j'avais encore Adam en moi et que Satan avait accès à moi, des esprits démoniaques m'attaquaient et commençaient à frapper sur mon verre. Maintenant, comme un bon chrétien, j'ai sorti mon bouclier, mon épée, j'ai commencé à citer les Écritures et à réprimander le diable. J'essaierai de libérer un peu de mon esprit et j'en éclabousserai une partie et une autre. Tu as juste une petite goutte ici. J'en faisais jaillir un peu et je le lançais autour de moi pour faire circuler l'esprit et les repousser. Sortez du chemin avant qu'un autre groupe ne me sorte dessus. Je faisais la même chose. J'arrivais enfin à B. Mais mon verre était déjà à deux tiers vide car j'avais besoin de tout cela pour éliminer les autres. De plus, j'avais fait tout le trajet en frappant et en dardant, et j'avais un peu mal et j'étais épuisée, mais je me suis rendue au rendez-vous. Mais tu vois, toute cette bataille en cours de route n'était pas le rendez-vous. B était le rendez-vous. Quand je suis arrivée, il y avait un gros qui m'attendait. C'était mon rendez-vous avec lui. Mais maintenant, j'ai perdu environ les deux tiers de mon eau. Je suis restée endolorie, fatiguée, épuisée. Et maintenant, je m'apprête à monter sur un rig avec le gros. Mais je suis une tête de mule, je suis déterminée, je crois que la façon de perdre est d'abandonner. Je ne suis donc pas un lâcheur, alors je grimpe sur le ring, c'est là que Dieu m'a envoyé et j'ai fait 48 rounds et j'ai fini par gagner. Il est difficile de dire qui est le vainqueur en me regardant, mais j'ai gagné une décision serrée, mais j'ai gagné. C'est ainsi que j'ai exercé mon ministère pendant longtemps, mais je suis devenue un peu plus intelligent. J'ai compris comment entrer dans le Christ et c'est de cela qu'il s'agit, entrer dans la présence de Dieu et y demeurer. Et j'ai réalisé, si tu vois bien que ce verre c'est moi, l'eau qui contient représente l'esprit, l'eau qu'il contient représente le Saint-Esprit, mais si tu imagines le Christ et le Saint-Esprit, c'est toute cette pièce. Disons que toute cette pièce était étanche et qu'elle était simplement remplie d'eau, un grand réservoir d'eau, de l'eau claire et cristalline à l'intérieur. Et ce n'est pas un verre clair. Et je me rends compte que je dois encore régler certaines choses, mais si mon verre était clair, propre, tu vois ce que je veux dire, plein d'eau. J'ai pu prendre mon verre, l'introduire dans le réservoir et le placer au centre du réservoir. Si mon verre était propre, il devra être propre, sinon il ne laissera pas, c'est-à-dire Jésus ne le laissera pas au centre du réservoir, dans son sein. C'est en présence de notre Père. Aucun péché ne peut y pénétrer. Mon verre brunâtre ou gris ne peut donc pas entrer dans sa présence. Je dois faire en sorte qu'il soit clair comme l'eau de roche. Enlève tous les péchés. Mon verre est alors clair comme du cristal rempli de l'esprit et par la foi en acceptant ce que Dieu a dit par le sang, j'entre directement dans le réservoir. Maintenant, mon petit verre transparent, comme du cristal assis au milieu de ce réservoir d'eau claire, tu ne verras même pas mon verre. Tu vois ce que je veux dire? Il disparaîtra. Tout ce que tu verras, c'est le Seigneur, l'Esprit. Amen. Maintenant, si je m'installe à l'intérieur et que je reste là, il est sur le clavier. Et sur le clavier, il frappe sur mon petit écran assis là au milieu du réservoir et il dit, fils, nous sommes à A, mais je veux que tu ailles à B. Je dis oui, Seigneur, chaque fois que tu seras prêt. Parce que je n'irai nulle part tant que le réservoir n'aura pas bougé. Ou le nuage, la boule de feu. Seigneur, quand tu voudras y aller, nous irons et je ferai tout ce que tu me diras de faire quand tu y seras. Je te laisserai utiliser mon vase, passer et te manifester. Et je te donnerai toute la gloire et le mérite pour ce que tu fais. Je vais simplement entrer dans ton repos ici, cesser de travailler pour moi. C'est mes propres œuvres, je suis ici pour le voyage. Chaque fois que tu es prêt et que tu dis « Ok, nous partons », je m'assure de rester au centre du char et tout le char se dirige vers B. À ton avis, combien de démons ont sauté sur le char entre ici et B? Pas question, Joseph. Ils ne vont pas s'en mêler. Ils ne peuvent pas m'atteindre parce qu'ils ne trouvent pas de place en moi. Il faudrait qu'ils passent par le Christ pour m'atteindre et ils n'ont pas de place en Christ. Et je suis en Christ, donc ils n'ont pas accès à moi. Et au lieu de me battre, de donner des coups de poing et de m'épuiser d'arriver à B, je suis maintenant entré dans le repos. Je suis dans la présence de Dieu où la joie est à son apogée. J'ai une paix qui dépasse toute compréhension. Je m'amuse comme un fou avec mon Dieu sur le chemin vers B. J'arrive à B, voici l'affectation. Le vieux gros qui se tient là et il voit ce qui se prépare et ses genoux commencent à trembler quand ce char d'assaut arrive en ville. Et de l'intérieur du char, je reçois un ordre. Père, que veux-tu que je fasse? Fais-le sauter hors du ring. D'accord. Quelle arme veux-tu que j'utilise? Le fusil, le canon, le missile? Il a un arsenal pour chacune d'entre elles. Quelle que soit la taille de ce qui se trouve sur le ring. Il a dit qu'un petit Magnum 15 ferait l'affaire. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, donne l'autorisation de libérer l'autorité et la puissance pour enlever l'obstacle. Et je tire depuis l'intérieur du réservoir. Je ne sors plus du réservoir pour sauter dans le ring et aller au coude à coude. Je viens de tirer depuis l'intérieur du réservoir. Il est parti. Et je dis, super, loué le Seigneur. Et je raconte à tout le monde comment le Seigneur a éliminé cet obstacle. Et je dis, Père, où est la prochaine mission? Il m'a répondu, oh, c'est ici, assez. Chaque fois que tu seras prêt, Père, quand tu seras prêt, Seigneur, nous irons. En attendant, je vais me reposer. Et nous irons à C, nous irons à D, nous irons n'importe où. Amen. Voilà la différence. Tu penses que cela donne un peu plus de joie de marcher avec Dieu et de le servir et de se promener comme ça par rapport à l'ancienne façon de faire? Amen. Réfléchissez-y pendant cette pause et nous poursuivrons la prochaine session.